Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
Bonjour David Blo.
Bonjour.
Vous avez l'air bien frais, donc vous avez dormi cette nuit, ça vous arrive ?
Ça m'arrive, un peu. Mais je suis content d'être bien frais.
Pour leur première bande dessinée, les éditions Alia ont fait un bon choix, rééditer Le Chant de la Machine. Donc un livre graphique consacré à l'histoire de la musique électronique avec vos textes, vos enquêtes et au dessin, le regretté Mathias Cousin. Ça a été publié d'abord en deux tomes, en 2000 et en 2002. Le Chant de la Machine, c'est vraiment un beau titre. Comment vous l'avez trouvé ?
C'est Mathias qui l'a trouvé. Il a dû me dire ça une fois, je fais c'est très bien, allons-y. Je sais plus comment, c'est un peu l'idée qu'on avait de dire que toutes ces musiques électroniques, surtout à l'époque où on l'avait fait, c'était souvent considéré comme des musiques sans âme. Donc l'idée de leur trouver une caractéristique humaine avec cette idée de chant, ça collait bien, c'était parfait.
Alors on se dit qu'avec le titre on va parler musique et technologie, mais non, justement, pas seulement, ou si peu en fait. Pour vous, cette histoire, c'est d'abord une histoire sociologique, une histoire des lieux qui ont beaucoup compté justement, avant même l'invention des machines.
On aurait pu aussi le faire via l'invention des machines, ceci étant, mais c'est vrai qu'il y a plus d'histoires à raconter, plus d'anecdotes. C'est vrai que toute cette histoire de la house, de la techno, qui vient de la disco, qui vient, c'est ce qu'on raconte, soul, funk, enfin, il y a pas un genre à un moment qui démarre quelque chose, il y a toujours du passé derrière. Et c'est vrai que ça se passe souvent dans des endroits, des rêves, puis avant des discothèques, puis des discothèques, selon les termes, etc. Et donc, c'est des lieux nocturnes. Et c'est vrai qu'on a commencé le bouquin, on se pensait à attaquer ou à Travolta, puis remonter. Et puis, c'est vrai que des lieux se sont imposés. Puis, au bout d'un moment, on n'en finissait pas, quoi. On remontait au club de jazz de Saint-Germain, puis on aurait pu aller plus loin, comme ça. À un moment, je disais même à Mathias, mais on pourrait commencer avec des fêtes chez Louis XIV, puis on pourrait commencer, enfin, c'est une espèce de truc de fêtes, de lieux, de rencontres nocturnes, dans lequel il y a toujours de la création musicale ou artistique. En l'occurrence, là, c'est le musical qui nous a attirés.
Et quand vous vous lancez dans cette entreprise de raconter cette histoire en l'an 2000, c'est déjà la fin pour vous de la révolution électronique dans la musique, ou pas, parce que...
Un petit peu, oui. Un petit peu, parce qu'on était assez précurseurs. Enfin, on n'était pas beaucoup en France particulièrement à s'intéresser aux musiques, ce qu'on appelait assez techno, électronique, dans les années 90. C'était pas le cas. Si j'avais été anglais, j'aurais pas eu la même réponse. Mais en France, ça a vraiment explosé au moment où on a fait cette bande dessinée. Ce qui fait que ça va un retard de 10 ans par rapport à là où ça a été créé aux États-Unis, où là, ça a explosé en Angleterre.
Alors, comment vous, David Blo, vous êtes tombé dedans?
Je suis tombé dedans, je pense, je sais pas, assez jeune. Moi, j'avais un grand frère qui était très très pointu. Il a 9 ans de plus que moi, donc à la fin des années 70, il avait aussi bien des disques de Joy Division que de reggae, que les premiers disques de hip-hop, les grands Master Flash et des choses comme ça. Donc moi, j'écoutais ça petit, et j'ai eu après mes propres goûts, et notamment un groupe qu'on développe beaucoup dans le bouquin qui est New Order. Et New Order, c'est vraiment, quand on est ado, on aime bien s'identifier à quelque chose. Bon, là, c'était un groupe très mystérieux, avec des pochettes très cryptées, il y avait très peu de photos d'eux. Et musicalement, c'était un groupe très rock, très new wave, ce qui était important dans les années 80, mais qui jouait avec les machines, qui faisait des extended mix. Sur tous les maxi New Order, il y a des versions 12 inch avec des remixeurs américains que maintenant je connais, les Shep Pettibone, mais je savais pas qui ils étaient quand j'étais petit. En fait, c'était des mecs de la disco. Donc un groupe comme New Order et d'autres, mais pour moi c'est New Order, ont vraiment fait le pont avec tout un univers comme eux l'ont vécu, hein. C'est des mecs de Manchester qui sortent de Joy Division, mais qui découvrent le Paradise Garage ou le Fun House à New York et des clubs comme ça, et qui s'imprègnent de la club culture disco. Donc un mélange de New Wave et de disco, ce qui est pourquoi pas une bonne définition de la techno, quelque part.
Est-ce que Mathias Cousin était tout aussi intéressé par ce genre, par ces musiques-là ?
Complètement, complètement. En fait, c'est un peu lui qui a démarré la bande dessinée. Enfin, je pense qu'on en a parlé, parce qu'on était très très potes, donc on avait déjà fait des bouts de bande dessinée ensemble quand on était plus jeunes. Et c'est, je sais pas qui de nous deux a eu cette idée de mettre ça en toutes les anecdotes qu'on avait. Il n'y avait pas de livre à l'époque. Très peu. En France, il y en avait zéro. Peut-être le bouquin de Jean-Yves Leloup, mais il y avait très peu de choses. Et je pense que c'est lui qui a eu l'idée de le mettre en bande dessinée. Honnêtement, je me rappelle plus, mais c'est devenu assez vite une évidence. Maintenant, il l'avait commencé tout seul. Il y avait une soirée qui s'appelait Cheers à l'époque, en France. Et il avait commencé à faire des flyers pour Cheers sous forme de bande dessinée. Et puis après, on l'a développé en bande dessinée officielle chez Delcourt.
Et cette histoire-là, cette histoire de la musique électronique que vous faites démarrer à partir du disco, c'est une histoire très franco-américaine. Hein.
Oui, c'est marrant.
C'est ça qui ressort de votre livre, c'est-à-dire les lieux en France. Mmh. Déjà, le terme disco viendrait de discothèque, donc un terme français.
Voilà, alors déjà, si je peux reprendre, déjà, même musique électronique, déjà c'est un débat vaste en fait, parce que ce dont on parle n'est pas forcément musique électronique, puisque la disco, on va dire 50% de la disco, il n'y a pas forcément des machines, ça vient plutôt de la soul et du funk, donc déjà c'est assez embrouillé. Sur le France-Amérique, bon, c'est aussi parce qu'on est français, donc je pense pas que si un Italien avait fait la même BD, il aurait peut-être pas développé le Palace comme on l'a développé. Mais c'est vrai qu'il y a eu...
Ah bah non, mais vous dites que même les producteurs de la musique électro sont français, hein, bien
beaucoup,
sûr.
Ouais.
Vous parlez de Jacques Morali et de son aventure incroyable avec Village People, mais pas seulement d'ailleurs.
Non, mais je veux dire, on aurait été allemand, on aurait peut-être fait un chapitre entier sur Kraftwerk, plus détaillé, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le mot discothèque, ça serait Roger Vadim qui aurait dit discothèque. Alors Céron raconte aussi que c'est lui, enfin il y a plein de gens qui s'approprient. Mais un des premiers clubs du monde, c'est les clubs de chez Régine, et c'est ce que Régine développait déjà à travers le monde. Donc c'est assez drôle. Quant aux producteurs, oui, c'était souvent des hommes de l'ombre, mais des Jacques Morali, des Jean-Michel Jarre, des Céron, le père de Thomas Bangalter, des Daft Punk, et énormément de types. Alors souvent dans l'ombre. Ou un peu un sorcier gourou comme ça, un petit peu, pas forcément au premier plan, mais oui, c'est vrai que les Français ont été importants. Ils ont été importants, pour moi, le disco est vraiment une musique américaine. Ce qu'ont apporté les Européens, pas que les Français, c'est les boîtes à rythme et les machines. C'est-à-dire Giorgio Moroder, Céron ou Kraftwerk, d'un certain côté, c'est un peu le pendant avec des machines de ce que faisaient les Américains de manière beaucoup plus organique.
Alors, on va pas refaire ce matin toute l'histoire de la musique électro. Vous le faites suffisamment bien dans cette bande dessinée, Le Chant de la Machine, avec en plus une intro des Daft Punk de 2011. Daft Punk, c'est tout à fait normal, puisque vous étiez le premier à les programmer dans votre soirée Respect, David Blow. Mais si vous voulez bien, on va essayer de survoler tout ça avec des extraits musicaux. Allez, on commence en 1968 avec Archie Bell et les Drells.
Hi everybody, I'm Archie Bell of the Drells of Houston, Texas. We don't only sing, but we dance just as good as we want. In Houston, we just started a new dance called the Tighten Up. This is the music we tighten up with. First, tighten up on the drum. Come on now, drummer. I want you to tighten it up for me now. Oh, yeah. Tighten up on that bass now. Tighten it up. Yeah. Now let that guitar fall in. Oh, yeah. Tighten up on your organ now. Yeah, you do the tighten up. Yeah, now. I said if you can do it now, you sure will be tough. Now look here. Come on now. Now make it level.
Voilà, c'était en 1968. Pourquoi commencer avec ce morceau, David Blow? Je rappelle que ce choix musical, c'est le vôtre aussi.
Ouais, vous m'aviez demandé quelques morceaux. Déjà, c'est marrant parce que si je rebondis sur ce qu'on vient de dire, là, il n'y a pas une seule machine.
Il hein. n'y a pas vraiment... une seule machine.
Non, là, on est dans la dance music, donc de la funk, soul, on trouve le terme, parce qu'on pourrait passer des heures pour le définir. J'ai commencé avec ça, j'aurais pu en choisir des tonnes. Vous m'avez demandé quatre morceaux, donc j'ai fait un choix comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une danse. Il parle d'une danse. Il explique aux gens comment danser. Là, il y a un groove incroyable derrière. Et lui, il est en train de dire comment danser. Et ça, c'était très important dès le début des années 60. Là, le morceau date de la fin des années 60, mais on avait ça, on avait le twist, le cha-cha-cha, et c'était des hits aux États-Unis où on disait aux gens « let's do the twist », on donnait des noms de danse. Donc ça, c'est une base. C'est une des milliers de bases avec comment commencer le chant de la machine. Bah c'est vrai qu'on a pas mal choisi les endroits, les danses,
Et puis le timing. En fin de compte, ce sont les DJ qui demandaient maintenant aux producteurs voire aux artistes, est-ce que vous pouvez pas faire un morceau un peu plus long parce qu'on a envie de rester un peu plus longtemps sur la piste?
Ouais, ça c'est dans les années 70, que ce soit Cool Herc pour le hip-hop qui rallongeait les breaks de James Brown, que soit, bah, l'histoire mythique, c'est évidemment Giorgio Moroder quand il fait I Feel Love de Donna Summer, qui fait que 3 minutes à la base, et c'est le boss de Casablanca aux États-Unis, Pete Bogart, qui appelle Moroder, qui lui fait c'est super bien, mais j'ai dû le jouer 5 fois à la suite pour que les gens, le 45 tours 5 fois à la suite, donc faisant une version de 15 minutes, ça c'est effectivement révolutionnaire.
Et c'est la naissance du DJ. Allez, on continue. Cette fois-ci, on est en 1976, et on reconnaît tout de suite. Ah oui, on la reconnaît, Diana Ross.
Thank you.
C'est parfait d'avoir choisi ce morceau David Blow parce qu'il y a tout à la fois la force de la disco, mais aussi tout ce qu'à l'époque on n'aimait pas chez la disco, le côté surupeux.
Ouais, alors moi je le vois plus le surupeux. Je croyais que vous alliez dire sexe parce que c'est très sexe aussi.
Et aussi,
morceau.
Ouais.
Mais ce qui, j'ai choisi Diana Ross. Bon, c'est un, pour moi ce morceau c'est un chef-d'œuvre. En plus, il est très très long là. Évidemment, on a écouté un petit extrait, mais au début c'est très calme. On a entendu une toute petite partie calme et ça part en disco. Et ça peut être bien symbolique. Diana Ross est déjà une star, évidemment, une star des années 60. Et à la deuxième moitié des années 70, on va dire le pic, ça a été Travolta avec Saturday Night Fever, mais tout le monde fait de la disco. C'est-à-dire qu'avec recul, il y a des morceaux de disco des Rolling Stones, il y a des morceaux de disco de Rod Stewart, il y a des morceaux de disco de Johnny Hallyday, il y a des morceaux de disco de David Bowie, et toutes les stars.
Et bientôt, on va remixer la vieille chair d'ailleurs.
Oui, entre autres. Et Diana Ross, c'est un bon symbole de quelqu'un qui a complètement pris le pied du disco. Là encore, il n'y a pas encore de machine d'ailleurs. Hein. On est encore dans la disco vraiment organique, de la soul, de la funk. Quoi.
Ah, les machines vont arriver très vite.
Là.
Les machines sont là avec les New Order, David Blow.
Clairement, alors c'est pas les premiers, hein. Encore une fois, il y a les Kraftwerk, Serod, Moroder, tout ça, ils se servent déjà de machines ou d'autres que j'oublie. Mais eux, c'est un bon symbole. Enfin, j'en ai touché un mot tout à l'heure, mais enfin, c'est des types qui, à la base, c'est pas, ils sont derrière, c'est un groupe de rock, de punk même, Joy Division. Et puis, ils découvrent de plus en plus les machines et ils font ce morceau en 83 qui est extrêmement symbolique du tournant New Wave vers la techno. C'est vraiment un morceau pré-house, pré-techno fondamental que Blue Monday, la manière dont il est construit, il dure 7 minutes, il n'y a pas de version 45 tours, une intro extrêmement longue. Et un groove, et effectivement, c'est de la machine là.
Et à partir de là, ça y est, ce sont les DJ qui deviennent des stars.
Entre autres, fin des années 80, effectivement. Donc là, je choisis un morceau de 1993 d'un duo hyper important de l'époque, et qu'il est toujours d'ailleurs, qui sont les Masters at Work. Donc ces deux petits gars de New York, d'origine portoricaine, enfin latino, on va dire, Little Louis Vega et Kenny Dope Gonzalez. Ça montre un peu comment la boucle se boucle, quoi. Little Louis Vega, c'est le neveu d'Hector Lavoe, pour les gens qui connaissent les musiques latines, ça n'a rien à voir. Mais n'empêche qu'ils grandissent avec la culture des DJ, ils grandissent avec la culture des clubs, ils grandissent avec les machines, alors qu'ils viennent vraiment d'une famille de musiciens. Il y avait, d'ailleurs, quand on l'a fait la bande dessinée, on est quand même il y a 15 ans, hein, à l'époque, c'était pas considéré encore comme de la vraie musique. Donc c'était intéressant, des gens comme Little Louis Vega qui ont grandi dans une famille de vrais musiciens et qui se disent, mais non, moi je peux faire, je vais donner un chant à la machine ou donner une âme à la machine, et c'est le cas de ce classique de Dance Floor, effectivement plébiscité par les DJ. Autre anecdote, ce truc, aujourd'hui c'est un morceau mythique. En France, je me rappelle quand il est arrivé dans les magasins, il y avait 10 copies en France, 15 copies pendant 6 mois, puis après 30 copies qui sont arrivées, et c'était un morceau extrêmement rare comme ça, mais dès qu'un DJ le jouait, tout le monde devenait dingue.
Dans quelques semaines, vous avez fêté vos 20 ans à la tête d'une soirée que vous n'animez plus d'ailleurs, non. Les soirées respect.
On a fêté les 20 ans déjà, c'était le 2 octobre 96, la première.
Ah ouais, je pensais que c'était en décembre 96, donc je n'y étais pas, moi qui pensais...
on avait démarré ça avec Frédéric Agostini et Jérôme Vigée-Colère. Ça n'existe plus, c'est pas mort non plus, disons qu'on ne le fait pas actuellement. On a une sous-soirée qui s'appelle Été d'amour qui continue à New York et tout ça, mais moi je m'occupe plus de ça, mais c'est pas mort officiellement, et effectivement... On était des jeunes gamins de 25 ans, 26 ans, et on a fait un peu, entre guillemets, pour aller vite, hein, mais la première soirée French Touch à Paris, où dès la première soirée, les Daft Punk ont mixé, et puis tous les gens qu'on connaît maintenant.
Et ça ne vous empêche pas, David Blot, de rappeler dans cette bande dessinée, Le Chant de la Machine, que une fois que l'électro s'installe, le phénomène social ne suit pas. Hein. Pour vous, le grand phénomène social, c'est avec le disco, parce que il n'y avait pas seulement les boîtes de nuit, mais c'était toute la société qui était touchée par ce phénomène.
Alors oui, je pense que le disco a été un phénomène beaucoup plus massif, parce que je rappelais que des gens aussi éloignés que Johnny Hallyday et tout ça, bon, on ne peut pas dire maintenant, avec le recul, que les musiques électroniques, la techno, la house, n'a pas été révolutionnaire aussi, il y a quand même eu quelque chose. Mais ça ne s'est pas tramé de la même manière, ça ne s'est pas écrit de la même manière.
Et ce n'est pas assez codifié, même si vous, vous avez détourné tous les codes, hein, c'est-à-dire, c'est né dans des ghettos homosexuels, vous ne l'êtes pas, c'est né avec la drogue, vous êtes passé à travers tout ça. Est-ce que ce n'était pas déjà le début d'un monde cloisonné entre tribus qui contrairement à la période disco, n'allait plus se rencontrer?
Alors, deux choses. La période disco, un truc intéressant, et c'est encore le cas à New York, c'est malheureusement pas le cas en France, mais à New York, même un DJ que j'ai vu récemment qui s'appelle Danny Krivit, qui est DJ depuis le début des années 70, quand il fait des soirées aujourd'hui, il y a des gens de 60 ans qui expliquent aux gens de 20 ans comment se tenir dans la soirée. En France, malheureusement, peut-être qu'un endroit comme le Palace brassait des gens de tout âge, aujourd'hui c'est un peu mort, donc ça c'est un peu triste. La deuxième partie de la question, je me rappelle plus, je suis désolé.
Que ce sont des tribus sociologiques qui se retrouvent pas,
Alors ça, je trouve ça a énormément changé. Dans les années 90, c'était très cloisonné. Si on mettait un disque, mais même au sein des musiques électroniques, si on mettait un morceau avec des voix dans une soirée techno, on pouvait se prendre des bananes et des tomates pourries. Si on jouait un morceau de hip-hop dans une soirée house ou vice-versa, on pouvait avoir des problèmes. Aujourd'hui, je trouve que vraiment, c'est un des bons côtés de notre époque qui manque de nouveautés, par contre, musicales au même titre que ce que la house et la techno ont pu représenter. En revanche, dans une soirée aujourd'hui, on peut jouer de tout. Il y a eu au moins un véritable progrès là-dedans.
Alors, dans cette bande dessinée, donc édité par Alia, il y a aussi les dessins de Mathias Cousin. On voit bien que toute la première partie, elle est vraiment marquée par le trait de Robert Crumb allant à la rencontre des musiciens du blues, le même trait noir, c'est là. La deuxième partie qui a été réalisée 2 ans plus tard, je crois.
Oui, à peu près.
À peu près, là, il se lâche, il y a de la couleur, il y a un style plutôt personnel, ça va un peu plus vite aussi, d'ailleurs. Est-ce que vous avez parlé aussi avec Mathias Cousin de comment rendre compte de ce que vous avez fait, c'est-à-dire interviewer les premiers producteurs, les premiers spectateurs, il y a même Didier Lestrade dans, dans votre livre de témoignages, comment représenter aussi les musiciens, raconter cette histoire, voilà. C'était aussi une discussion de graphique.
Bien sûr, on l'a fait à deux, vraiment toute la bande dessinée, on l'a fait à deux, moi j'étais son voisin, j'étais 2 étages plus haut que lui, donc c'était pas le scénariste qui envoie son scénario et le dessinateur qui dessine sans contact, quoi. On se voyait vraiment tout le temps. Après, il était un peu plus, déjà j'étais jeune, Mathias était plus jeune que moi, donc il était très influencé par Crumb et il s'est détaché de son influence, ce qu'on peut voir chez énormément de dessinateurs en bande dessinée, ou peinture ou art, ils se détachent de leur influence. Crumb a été une influence déterminante parce que justement lui arrivait à parler de musique en bande dessinée, chose qui n'était pas si facile, et ce qu'il a fait sur le blues était déjà hyper important, donc ça nous a marqué. Et surtout on voyait une filiation, et ça m'amusait parce que je suis sûr que Crumb, on lui aurait mis un disque de house, ça se trouve c'est peut-être le cas aujourd'hui, il dirait mais c'est pas de la musique. Or on essaye de démontrer, si jamais il voit cette bande dessinée, ça m'intéresserait d'avoir son avis, on essaye de démontrer quand on raconte les pionniers de Chicago dans les années 80, c'est exactement les petits-fils des bluesmen dont il parle, mais vraiment la même histoire quasiment, des types qui inventent une musique, qui se la font piller, qui gagnent pas un sou dessus.
Ou même un jeune provincial qui le souffre-douleur d'Hervé Villard, qui va s'avérer être
Jacques Morali.
Mais est-ce que vous ne vivez pas avec des fantômes à chaque fois que vous écoutez ces musiques-là?
Ah non, mais pas du tout. Bon. Mais d'abord, j'écoute pas que... j'ai fait une émission encore sur Radio Nova 3 heures tous les jours avec des nouveautés, donc j'écoute des nouveautés toute la journée.
Et c'est fini la soirée respect?
Ouais, ben ça serait plutôt vivre avec des fantômes que de continuer cette soirée non-stop, que plutôt que de l'arrêter.
Le Chant de la Machine, c'est édité chez Alia. Merci d'être passé.
Merci beaucoup.
Bon matin, David Blot. Les petits matins continuent. Émilie Chaudet dans un instant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouvera sous le soleil d'Alger.